11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau les étudiants, les étudiantes Relais Santé dans cette émission La Méridienne, puisque nous avons la chance, je le rappelle, d'avoir un partenariat avec le service de santé universitaire. Alors, je vais tout de suite vous dire bonjour. Bonjour Ombeline.
Bonjour.
Et bonjour Margot.
Bonjour.
Alors vous êtes venu avec un invité, Victor Milimo, qui est infirmier en santé publique. Peut-être voulez-vous nous présenter votre invité.
Oui, peut-être qu'il peut se présenter lui-même d'ailleurs. Voilà.
Oui, bonjour, merci de votre invitation. Donc Victor Milimo, je travaille au service de santé universitaire depuis une dizaine d'années. Et dans mes activités au service de santé universitaire, je m'occupe des actions de prévention collective sur la thématique des addictions.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc ça va être notre sujet du jour. On va parler plus précisément des addictions sans substance. Donc les addictions plus comportementales et pas les drogues dont on a l'habitude habituellement. Là. Donc peut-être on peut commencer par les définir un petit peu et expliquer un peu de quoi on parle quand on parle d'addiction sans substance.
Oui, bien sûr. Quand on parle des addictions sans substance, c'est une addiction qu'on n'a pas l'habitude, mais qu'on découvre petit à petit. Comme vous l'avez évoqué, c'est une addiction comportementale ou une addiction sans drogue qui est caractérisée par des troubles qui regroupe un certain nombre de conduites répétées associées à une perte de contrôle ou avec un certain degré de dysfonctionnement de l'individu dans son environnement socio-professionnel. Il s'agit entre autres des addictions au jeu, ce qu'on appelle le jeu pathologique. On joue avec des achats compulsifs ou des addictions aussi à Internet, ce qu'on appelle parfois des cyberaddictions, des addictions aux jeux vidéo, au sexe ou à l'exercice physique ou au travail. Et en fait, il y a plusieurs addictions comportementales. On peut énumérer plusieurs, mais on peut se limiter sur ce que je viens de vous dire, parce que c'est ce qu'on rencontre souvent actuellement.
Ouais, puis peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est des addictions, donc on va parler effectivement peut-être pas mal des addictions aux jeux d'argent et de hasard, parce que c'est un peu les plus connus, les plus étudiés. Mais ouais, faut bien rappeler que c'est pas juste le fait de jouer qui fait qu'on a une addiction, c'est vraiment, on parle vraiment d'un usage pathologique, d'un usage problématique, donc qui aura des conséquences après aussi sur la vie personnelle, professionnelle, etc. Puis peut-être on peut expliquer aussi quelle est la différence entre les addictions avec substance et sans substance. C'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement les mêmes effets, le même fonctionnement sur le cerveau, c'est pas exactement le même type de dépendance. Peut-être Ombeline, tu veux dire un mot là-dessus, je sais pas.
En tout cas, moi ce que je voudrais dire, c'est que par rapport aux addictions sans substance, il y a un problème aussi qu'on voit, c'est que souvent c'est pas forcément pris au sérieux, puisque c'est une addiction qui ne se voit pas forcément. C'est une addiction où voilà, ça a un impact psychique intérieur. Et du coup, contrairement, par exemple, aux drogues dures, où là, ça se voit, on va dire que les personnes qui ont une addiction, par exemple, aux jeux d'argent, etc., ne sont pas forcément prises au sérieux. Donc peut-être aussi qu'il peut y avoir un manque de crédibilité à cause de ça, du fait que ça ne se voit pas.
Ouais, puis du fait qu'il y en a aussi beaucoup qui sont pas forcément encore très bien reconnus, par exemple l'addiction aux jeux vidéo est reconnue par l'OMS, mais va pas être reconnue par le DSM, qui est un petit peu le manuel, le dictionnaire des pathologies mentales, on va dire, pour faire simple. Donc c'est sûr que ça joue aussi. Effectivement, un addict aux jeux vidéo, c'est pas juste quelqu'un qui joue aux jeux vidéo un petit peu tous les jours. Ça va être vraiment autre chose, quoi.
Oui, puis il ne suffit pas de dire tu as qu'à arrêter pour casser cette addiction. Non, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus important que ça. C'est comme une personne qui est addict à une cigarette. Bon, on sait très bien que c'est très compliqué, donc c'est aussi pareil finalement pour ceux qui sont, par exemple, addicts à tout ce qui est jeu de hasard, etc. Vraiment, il ne suffit pas d'arrêter pour ne plus être addict.
Oui, effectivement, pour rajouter une petite précision, comme vous l'avez évoqué, il y a bien sûr un encadrement au niveau international, surtout pour les professionnels de santé, pour que un trouble soit désigné comme addiction. Comme vous l'avez évoqué, il y a le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux de l'Association de psychiatrie américaine, effectivement, qui a reconnu les jeux d'argent, jeux pathologiques comme une addiction. Et puis la classification internationale des maladies et des problèmes de santé de l'OMS, qui a reconnu aussi les jeux vidéo comme des addictions. Mais pour le reste, pour le moment, tout ce qui est Internet, on reste sur l'usage excessif et problématique. Mais ça n'entre pas en fait dans les critères d'évaluation des addictions.
Alors que pourtant, on va retrouver des symptômes qui sont similaires à des addictions, mais c'est un petit peu effectivement toute la difficulté de savoir ce qu'on classe comme addiction ou pas. Dès qu'on parle d'Internet, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Et peut-être du coup, on peut préciser en fait ce qui fait, quelles vont être les conséquences d'une addiction, parce qu'effectivement, bah, comme on l'a dit, c'est pas juste le fait d'utiliser Internet tous les jours, bah, ça on le fait tous, et pourtant on n'est pas nécessairement addict à Internet, aux jeux de hasard, on a peut-être même déjà tous acheté un ticket de loto,
oui.
Et pourtant on n'est pas forcément, ouais, moi j'en ai acheté un le 1er avril par exemple,
oui.
Voilà. Et pourtant on n'est pas forcément addict aux jeux de hasard, ça va plus loin que ça. Donc je pense que ce serait bien qu'on rappelle en fait vraiment que c'est des questions de conséquences sur la vie privée, sur la vie professionnelle, sur je sais pas, sur l'alimentation, sur des conséquences physiques. Enfin voilà, si l'un de vous deux veut détailler plus, faites-vous plaisir. Je pense qu'on en a pas mal quand même.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pour compléter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour donner plus de précision. Ces troubles, elles se caractérisent par une perte de contrôle sur le jeu et une priorité accrue accordée au jeu. Et de façon à ce qu'en fait la personne ne contrôle plus ses comportements, et puis on voit que si on continue de jouer, ces troubles agrandissent de façon à ce qu'en fait on tombe dans une sévérité, et puis on a des reproches de plus en plus, surtout de l'entourage, et puis ça peut bien sûr avoir des conséquences. Bon, on parlait aux étudiants d'abandon des études, puis des ruptures familiales, et puis il y a d'autres conséquences sur la santé, sur le plan de la santé, troubles du sommeil, tout ce qui est tristesse, des angoisses, une sorte de dépression. On constate aussi, bien sûr, quand c'est vraiment très pathologique, ça peut conduire même au passage à l'acte, au risque suicidaire. Donc il y a des conséquences néfastes sur la santé psychique de la personne qui est vraiment addicte ou qui a la dépendance à ce type de jeu.
Et puis, du coup, si je peux rajouter un élément, par exemple, pour les jeux de hasard et d'argent, ce qui peut créer une addiction, c'est justement le hasard. C'est le fait de se dire, bon, j'ai un ticket. Certes, j'ai perdu, mais peut-être que si je reprends un autre ticket, je vais gagner, etc., etc., etc. Donc finalement, c'est comme une spirale. On se dit, bon, j'ai perdu, mais peut-être que demain, je vais gagner. Et si c'est pas demain, c'est après-demain. Et aussi, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui vont miser des grosses sommes d'argent. Et le but, du coup, ce sera soit de récupérer cette somme d'argent ou même de regagner plus, finalement. Donc, c'est vraiment une spirale. C'est, enfin, vraiment, le hasard, c'est... Enfin, voilà.
Ouais, puis il y a un truc aussi qu'on va observer, par exemple, avec les jeux d'argent, ça va être le fait que la personne, donc, ouais, comme tu l'as dit, va jouer des sommes hyper importantes, va continuer à jouer en espérant se refaire, en se disant, bon, bah, je perds, mais de toute façon, un jour, je vais me refaire et je vais regagner de l'argent. Et sauf que, en fait, on se rend compte que le jour où elle gagne, et que donc elle pourrait s'arrêter, parce qu'effectivement, ça y est, elle a gagné, donc elle a peut-être réussi à combler une partie du déficit qu'elle a créé dans ce jeu-là. Et sauf qu'en fait, elle ne s'arrête pas, parce qu'elle se dit, bon, bah, ça y est, j'ai gagné, je me suis refaite, Donc, bah, du coup, je peux continuer et puis je vais gagner plus. Et donc, il y a vraiment ça, quoi.
Exactement.
C'est, ouais. Il y a vraiment une incapacité, en fait, à s'arrêter sur la durée, quoi.
Et pour compléter, vous avez évoqué tout ce qui est connu, reconnu par la classification internationale, mais ce qu'on a évoqué et puis qu'on raconte souvent, nous, en consultation, c'est surtout tout ce qui est addiction à Internet ou utilisation abusive des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. On voit des étudiants qui sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à se coucher, à dormir suffisamment parce qu'ils ont envie de rester connectés sur Internet, sur les réseaux sociaux, de consulter sans arrêt en fait l'Internet. Et puis, ils se retrouvent en difficulté, ils n'arrivent plus à contrôler en fait leur utilisation d'Internet. Donc, c'est pour ça, en fait, même si l'Internet est un outil qu'on utilise pour les études ou pour des éléments importants de notre vie courante, quand on est vraiment dans une consommation sans contrôler cette utilisation, ça peut engendrer effectivement le mal-être et puis avoir des répercussions négatives sur la vie de la personne et surtout la solitude, parce qu'on voit que ça coupe la plupart du temps d'autres éléments de la vie courante, tout ce qui est loisirs. On s'isole, on ne va plus voir ses amis, on ne va plus au cinéma, on ne tisse plus des liens en fait sociaux et l'entourage et se pose beaucoup de questions sur la personne.
En fait, ça va être des symptômes qu'on retrouve d'ailleurs avec les addictions avec substances. Hein. Enfin, ça aussi, on trouve effectivement le manque, la cassure de tous les liens sociaux, la perte d'intérêt dans les loisirs, etc. Donc en fait, c'est vraiment, pour qu'on parle d'addiction, en fait, c'est vraiment des symptômes qu'on va retrouver aussi avec l'addiction, je sais pas moi, à la drogue, à la cocaïne, à l'alcool ou que sais-je encore. Donc vraiment, c'est ça qui va définir en fait un peu l'addiction. Effectivement, ça, comme tu l'as dit, ça va être tous ces symptômes que tu nous dis là, qu'on peut retrouver en fait aussi avec les substances, sauf que bah ouais, les substances ça se voit, et que les addictions aux jeux d'argent, etc., on va passer un petit peu à côté sans forcément
exactement
le voir, quoi.
Du coup, si je peux rajouter quelque chose, en effet, c'est exactement la même chose. Par exemple, quand une personne va consommer du cannabis, ce qu'elle recherche aussi avant tout, c'est être dans une bulle, c'est peut-être aussi fuir une réalité qui peut être déplaisante, qui peut être très difficile à faire face, etc. Et là, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de personnes qui cherchent finalement à être dans un monde dans lequel elles voudraient être. Elles sont dans une bulle où elles rencontrent des gens qui finalement sont comme cette personne-là. On va dire que les jeux vidéo, c'est un énorme champ de liberté où finalement la personne peut être qui elle veut être, peut-être même sans jugement, parce que finalement on est caché derrière un écran. Il n'y a pas tous ces jugements par rapport au physique, par rapport à la classe sociale, etc. Donc c'est aussi ça qui peut pousser les gens à consommer des jeux vidéo, mais peut-être aussi de manière pathologique. Voilà.
Ouais, mais c'est vrai, c'est pour qu'on va retrouver un petit peu effectivement des choses comme ça. Il y a des, enfin, c'est un très bon moyen de construction de l'identité. Finalement, le jeu vidéo, tu t'identifies à ton personnage, tu crées toi-même ton personnage, tu fais effectivement un peu, tu ressembles à ce que tu veux, tu fais ce que tu veux presque. Mais effectivement, c'est vrai que ça peut être un piège. Et après, voilà, effectivement, tu peux très bien avoir un usage, rester dans un usage raisonnable. Et puis, mais ça peut être aussi fait très facile de tomber dans un usage où bah t'es tellement bien en fait dans ce monde virtuel que bah au final t'arriveras plus à t'en sortir, quoi. Puis après, on peut avoir des gens qui effectivement hors du jeu vont se sentir pas bien du tout, vont se sentir dans des états ouais presque des presque dépressifs, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou aussi ils vont venir vouloir, enfin par exemple un jeu vidéo, va y avoir des quêtes, il y a une communauté, donc on veut tout le temps être avec eux, on va avoir l'impression que si on n'y est pas, on va perdre sa place dans la communauté, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que oui, ça peut on va vraiment commencer à avoir l'usage pathologique dès qu'on va vraiment être dans une espèce de spirale où en fait c'est plus possible d'en sortir, quoi.
Oui.
Exactement. Donc oui, si on peut rebondir, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous venez d'évoquer, ce sont des éléments qui nous aident pour travailler sur la partie préventive, hein, parce que d'après ce que vous avez évoqué, nous, quand on va aller en prévention, on va sur la notion du jeu responsable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des actions qui vont permettre aux joueurs de bénéficier des informations claires et précises sur les risques et les dangers potentiels d'une activité, certes ludique, mais pas tout à fait comme les autres. Et puis, bien sûr, d'informer le public en utilisant des documents, des flyers, d'autotests, des affiches et des messages qu'on peut mettre sur les écrans dans les lieux de rencontre comme dans les halls des facultés. Dans la prévention aussi, c'est une occasion d'informer le public et surtout notre public étudiant sur l'existence des lieux de ressources et surtout de leur parler de l'existence d'un service qui a été mis en place par l'État qui est le site internet Joueur Info Service, là où il y a un appui téléphonique. Ou site internet, on peut rencontrer les professionnels via les chats. Et puis, il y a d'autres lieux, d'autres ressources qu'on a chez nous. On parlait du XAPA ou CJC. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des consultations jeunes consommateurs. Et puis, il y a le centre de soins d'accompagnement et de prévention à l'addictologie qu'on appelle communément le XAPA. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments que vous souhaitez qu'on aborde.
Sur la prévention, bah, rappeler que ouais, enfin c'est pas il y a la prévention et puis il y a la prise en charge. Après, c'est pas évident, je pense, de remarquer que quelqu'un va être dans ce genre d'addiction. C'est pas évident non plus, une fois qu'on l'a remarqué, de lui dire, eh bah, t'auras peut-être besoin d'aide. Donc, faut bien rappeler aussi, quand on est dans la prévention, que bah, ça sert à rien de culpabiliser la personne en lui disant, non, bah, arrête de jouer, tu te rends compte, t'as besoin d'aide, etc. Un joueur pathologique, dans les jeux d'argent, par exemple, il va pas forcément s'en rendre compte de toute façon. Enfin, c'est le principe d'une addiction, hein, on s'en rend pas nécessairement compte que oui, l'usage il est problématique et que oui, on est dans une situation d'addiction. Donc l'important, ça va être aussi ouais, d'accompagner vraiment, d'être dans la compréhension et de pas être dans le jugement de la personne et de pas forcer la personne, voilà, pour essayer de l'amener en douceur vers ces services, vers tous ces services que t'as cités. Je pense que le numéro, enfin un joueur info service, ça peut être pas mal aussi parce que bah, tu peux être au téléphone, donc on te voit pas, c'est peut-être un peu plus facile entre guillemets. Tu te dis bah j'en parle, mais il y a une certaine forme d'anonymat qui peut peut-être faciliter qui peut peut-être rendre ça plus facile pour la personne. Pour un premier pas, ça peut déjà être pas mal, quoi, je pense.
Oui. Bah, en tout cas, voilà, ce qu'il faut avant tout, c'est de l'écoute, de la bienveillance. Il ne faut pas juger parce que, bon, je pense que ces personnes-là, enfin, en tout cas, pour la plupart de ces personnes-là, ça peut être assez compliqué par rapport à leur famille. Donc voilà, beaucoup de bienveillance. Et puis, bah, encore une fois, nous ne sommes pas là pour juger. Et voilà, nous en tout cas, on donne les clés. Et maintenant, c'est à la personne de saisir ou pas. Maintenant, si elle se sent prête, en effet, elle peut, pourquoi pas en parler à un professionnel comme un psychologue, etc. Après, si elle ne se sent pas prête, en tout cas, elle sait que nous sommes là déjà en tant que RS, qu'il y a des professionnels de santé qui sont là, que le service de santé universitaire est là, que nous sommes prêts à les accueillir. En tout cas, voilà, je pense aussi que c'est aussi une question de temps et voilà.
Eh bien, moi, j'ai des questions à vous poser. Merci en tout cas à tous les trois pour toutes ces précisions et toutes ces informations. Alors, je me demandais s'il était possible de combiner, enfin de cumuler les mandats et d'avoir plusieurs addictions. Donc, par exemple, une addiction aux jeux vidéo et, puisque ça a été mentionné, une addiction au cannabis. Donc, est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, comment on accompagne une personne qui présenterait plusieurs addictions?
Oui, Effectivement, ça fait partie des conséquences en fait de ce type d'addiction. C'est qu'en fait, au risque d'addiction multiple, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des problèmes avec l'alcool, avec d'autres toxicomanies. Et c'est pour ça que j'ai évoqué avant d'arriver au passage à l'acte, on constate que la plupart du temps, c'est que les personnes qui sont dans cette addiction ont de multiples addictions, donc avec consommation de cannabis et l'alcool ou d'autres drogues. Et du coup, là, les conséquences, en fait, deviennent de plus en plus énormes côté santé physique et même côté santé psychique et aussi la partie sur le plan social.
Ouais, puis peut-être, enfin, moi j'ai deux exemples par exemple qui peuvent me venir en tête. Dans le cas d'une addiction aux jeux vidéo, par exemple, ça va nécessiter d'être. Enfin, en fait, la personne va vouloir rester éveillée plus longtemps, donc peut-être qu'on peut voir apparaître des addictions comme par exemple la consommation de cocaïne pour rester éveillée, pour pouvoir jouer plus longtemps. Je pense à un autre exemple peut-être aussi, la pratique du chemsex, donc le sexe sous substance qui en fait mêle deux addictions finalement, presque l'addiction. Ça peut amener à l'addiction au sexe, et puis c'est couplé avec une addiction à une drogue, cannabis ou autre. Voilà, j'ai ces deux exemples qui me viennent en tête, par exemple.
Oui, c'est ça. Du coup, par rapport au chemsex, en fait, finalement, ça va être de la performance sous substance dure. Maintenant, pour aussi répondre à ta question, oui, bien sûr, on peut mélanger deux addictions. Il y a un exemple avec les jeux vidéo. Il peut aussi y avoir une addiction. Comment dire ? On peut miser de l'argent dans les jeux vidéo. Par exemple, ça peut être pour habiller un personnage ou acheter, plein de choses. Bon, après, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais en tout cas, on peut acheter des choses dans ces jeux vidéo. Donc, il peut aussi y avoir une addiction, en tout cas, mêlée argent et jeux vidéo.
Et puis, par rapport à la question de la prise en charge, bien sûr, c'est une question très intéressante parce que, bon, nous, en tant que service de santé universitaire, on reçoit les étudiants, bien sûr, qui présentent ces problématiques. Et quand l'étudiant vient en consultation, on a la plupart du temps deux objectifs. Dans un premier temps, c'est de savoir pourquoi l'étudiant, en fait, vient vers nous. Puis, on évalue son problème, son trouble. On évalue la gravité de son trouble et puis les dommages, bien sûr. Mais déjà, nouer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, ce qui donne l'envie à l'étudiant de revenir vers nous pour des prochaines séances, pour avancer avec nous dans la compréhension de ses difficultés, dans la recherche des solutions pour y faire face. On utilise plusieurs outils. Il y a des outils, bien sûr, par exemple, des outils qu'on propose sur les interdictions volontaires ou des auto-exclusions aux jeux en ligne. Mais on peut utiliser d'autres techniques, bien sûr, comme par exemple proposer aux étudiants l'existence de groupes de parole qui peuvent être des espaces d'échange, d'expérience, de réassurance. D'échange aussi des outils qui ne sont pas donnés par les soignants parce que dans les groupes de parole, ils échangent d'expériences et puis il y a des outils qui proposent entre eux qui ne sont pas obligatoirement donnés par les soignants. Et puis on parle bien sûr de la possibilité de l'existence des maisons de repos où ça peut être vraiment un temps de rupture et d'éloignement du joueur. On parle aussi de l'existence des centres thérapeutiques plus spécialisés, des centres thérapeutiques résidentiels ou des appartements thérapeutiques. Et voilà, donc l'accompagnement peut se faire sur plusieurs mois. Ce n'est pas un accompagnement qui dure un jour ou deux jours, ça peut durer plusieurs mois. Et puis on constate que souvent, en fait, la personne qui consulte aimerait bien changer, mais les habitudes sont déjà ancrées depuis de nombreuses années. Et puis la personne, en fait, ne s'imagine pas vraiment sa vie sans le jeu. Donc, il faut qu'on puisse renforcer cette motivation que la personne ait la conviction qu'il peut y arriver. C'est pour ça, en fait, les professionnels de santé, même les étudiants de santé, ils sont formés sur ce qu'on appelle entretien motivationnel. Et puis, donc, ça nous aide à travailler avec les d'autres outils, bien sûr. C'est surtout pour les professionnels plus spécialisés avec des outils de psychothérapie qui aident les personnes d'aller petit à petit à repérer les situations à risque de changement de comportement ou de ne pas dans une réponse automatique, genre je ne vais ou je ne peux pas y arriver, je vais mal. Il y a toujours des émotions négatives qui surviennent et du coup, automatiquement, j'ai envie de jouer pour me distraire. Donc, en fait, avec ces outils, on peut s'adapter à des situations de la vie courante et puis d'aider la personne, en fait, à avancer de façon plus opérante.
Alors, vous mentionnez aussi des accueils dans des lieux spécialisés hein, pour le traitement des addictions. Est-ce que, au même titre que les addictions avec produits, il y a un effet de sevrage pour les jeux vidéo?
Oui, bien sûr, c'est pour ça, en fait, on a dit qu'il y a quelques pathologies, en fait, quelques troubles. On a parlé du jeu d'argent, jeux vidéo. Ils ont été classés dans les addictions parce qu'on constate les mêmes symptômes en cas de sevrage. Et puis, on s'est rendu compte qu'on peut utiliser les mêmes traitements qu'on utilise pour les addictions avec substance.
Je m'interroge aussi sur le rapport au corps, parce que vous avez expliqué, donc quand on est addict aux jeux vidéo, je suppose qu'on passe des nuits parfois entières à jouer, des journées entières, donc on peut supposer voilà, que ça peut-être donne des douleurs au niveau du dos, peut-être que ça a une influence donc sur le sommeil, c'est évident, mais aussi sur l'alimentation, sur les pratiques de sexe sous produit que vous mentionniez aussi. Il y a aussi tout le, comment dire, le rapport à la douleur, peut-être. Donc je m'interroge sur le rapport au corps des personnes qui souffrent de ces addictions, parce que vous l'avez évoqué, mais est-ce que peut-être leur corps est abîmé aussi? Parce que vous disiez, il y a peut-être, ça se voit peut-être moins physiquement que si c'est des personnes qui ont des traces de piqûres ou au niveau des cloisons nasales ou des choses comme ça, mais au demeurant, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se voit au niveau du corps?
Oui, bien sûr. Là, on n'a pas tout évoqué. C'est cas par cas parce qu'en fait, ça dépend de la pratique de chaque personne. Hein, mais comme vous l'évoquez, l'addiction au jeu, parce qu'en fait, le joueur est dans cette addiction, c'est-à-dire qu'en fait, il a envie de continuer de jouer, de ne pas se préoccuper d'autre chose de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a ça, des conséquences sur le plan social et sur le plan physique. L'alimentation aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est tout le temps connectée, qui est en train de jouer, qui augmente en fait l'utilisation des jeux vidéo, il oublie souvent de manger. C'est-à-dire qu'en fait, il saute des repas. On va trouver des conséquences sur la perte de poids, bien sûr. Et puis, bien sûr, sur le reste de l'état physique, c'est-à-dire que parfois, le fait de rester assis ou dans un lit ou dans un fauteuil, ça a des conséquences sur le corps, de façon à ce que même parfois, on trouve des traces de compression sur, par exemple, au niveau des coudes ou au niveau des jambes, et tout ça, en fait, ça a des conséquences parce que le joueur, en fait, il est vraiment dans son jeu. Pour le reste, la plupart du temps, ils ne pensent pas même à l'hygiène corporelle, et tout, de se laver ou d'autres soins. C'est vraiment, il est dans dans cette addiction. C'est pour cela que quand la personne parfois y vient, c'est parce que il y a les proches qui ont constaté ce dysfonctionnement, qui font des reproches tout le temps, et puis la personne prend la décision de venir consulter parce que voilà les l'entourage a signalé ces problèmes corporels ou sur le plan social.
En fait, enfin, si je peux me permettre d'ajouter un truc, enfin, il y a quand même des signes qui peuvent nous alerter un petit peu. Effectivement, on va voir, bah, comme pour les addictions avec substance, on va voir une personne qui va être par exemple très fatiguée, qui va avoir une perte de poids ou à l'inverse une prise de poids, parce que je me dis, enfin, le fait de jouer aux jeux vidéo tout le temps, on va oublier de manger, mais ça peut être l'inverse, ça peut être on va manger, mais comme du coup on va être tout le temps assis, on fait plus du tout d'exercice physique, et du coup ça peut aussi être l'inverse, hein, je pense. Enfin, donc il y a quand même effectivement, enfin il y a toujours des petits signes où si on fait vraiment attention, on va se dire bon bah il y a quand même quelque chose de pas normal, quoi. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Et ça, si on y fait attention, effectivement, on peut le voir. Hein. Enfin, une personne très fatiguée. Après, on va pas nécessairement savoir pourquoi. C'est pas. Enfin, on va se dire bon, il y a quelque chose qui va pas. On va pas forcément savoir tout de suite ce que c'est. Faudra peut-être creuser un peu pour savoir exactement ce que c'est. Mais oui, il y a quand même des signes qui peuvent alerter. Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'on passerait à côté de tout
oui,
le monde, quoi.
Heureusement.
Après, ce qu'on dit bien, c'est que on peut quand même vraiment aussi passer à côté d'une personne. Par exemple, pour les jeux d'argent. On peut très bien croiser une personne qui est addict et on ne le saura pas, parce que je pense pour les jeux d'argent notamment, ça ne demande pas forcément autant de temps que le jeu vidéo, encore que ça dépend, parce que le poker, tout ça, là, ça va demander déjà un petit peu plus de temps. Mais ça ne va pas forcément se voir, quoi. On est vraiment sur un usage où bah, la personne, elle joue, elle joue, elle joue, elle joue. Mais en soi, elle peut jouer un peu n'importe où, donc on va la croiser, elle va venir peut-être, je sais pas si c'est une étudiante à la fac, on va la voir en cours, on va se dire oh bah non tout va bien, et puis en fait tout va pas bien du tout, parce que bah elle a déjà dépensé tout son budget du mois, qu'elle l'a déjà perdu oui. Dans les jeux, quoi.
Oui et puis jouer finalement c'est une priorité. Alors je dis jouer, mais ça peut être aussi autre chose. Donc jouer c'est une priorité, et finalement la personne elle est déphasée dans le temps, elle est dans une bulle, et puis bah il y a plus forcément d'écoute par rapport à son propre corps. Alors comme disait Margot, en effet la personne peut oublier de manger, comme elle peut aussi manger excessivement. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir des chips à côté d'elle et finalement elle va manger. Pourquoi elle va manger? Parce que elle est dans son jeu, et puis ça peut être aussi une addiction gestuelle. Mais est-ce que c'est par faim? Est-ce que c'est par ennui? Voilà, il y a beaucoup de réponses à ça. Mais voilà, il y a une certaine négligence en effet de tout ce qui est hygiène corporelle, etc. Ouais.
Alors, dans ce que vous nous dites, on voit, on suppose en tout cas que pour certaines de ces personnes, il y a une envie de s'échapper de la réalité, que ce soit en quittant son corps d'une certaine façon, en entrant dans un univers qui peut être beaucoup plus valorisant que l'univers dans lequel on vit. Voilà, et donc je me demande, est-ce que, comment dire, rien, ces personnes-là ont un terrain propice pour les addictions? Est-ce que, avant de devenir addict à quelque chose, est-ce qu'elles ont un état psychique ou un état de santé, un contexte qui fait que, malheureusement, elles sont plus à risque que d'autres de déclencher une addiction?
Ça, c'est une question qu'on se pose aussi sur d'autres problèmes de santé. C'est pas uniquement pour ce type d'addiction, c'est surtout aussi pour les addictions avec substance. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs favorisants ou ce qu'on appelle les déterminants de santé de manière globale qui peut influencer en fait le fait d'entrer dans cette addiction, parce que ce que je peux dire, c'est que c'est l'environnement actuellement, parce que dans la plupart des, je parle surtout les jeunes qu'on s'occupe, c'est la catégorie des jeunes, ce sont des personnes qui sont nées avec l'Internet et puis qui ont accès facile actuellement à Internet, où on peut voir tout ce qui se passe sur Internet. On parle des jeux vidéo, mais on sait qu'il y a plusieurs sortes de jeux vidéo. Il y a des jeux en ligne ou des jeux en fait qui ne nécessitent pas une connexion Internet. Et l'utilisation de ces outils, en fait, le fait d'être dans un environnement favorisant, ça peut commencer par un usage normal, un usage pour ses loisirs. Et puis, petit à petit, si on ne fait pas de contrôle, si on ne fait pas attention, si on augmente petit à petit pour se faire plaisir, l'augmentation vient petit à petit sans se rendre compte. Et puis, on tombe dans cette addiction parce qu'il n'y a pas eu un cadrage où il y a aussi un environnement qui a favorisé ça, parce que si on a des amis, si on a d'autres éléments, par exemple, on a parlé des jeux d'argent parce que on croit qu'on va gagner et puis on va avoir plus d'argent. Et puis le plaisir en fait de gagner, d'avoir des gains, et parfois ça empêche en fait le contrôle. Mais ce n'est pas quelque chose en fait qui est vraiment qui existe depuis la naissance ou en fonction de la croissance. C'est l'environnement. L'environnement, le fait de rester, de vivre dans un endroit, dans un environnement peuplé par plusieurs écrans, la facilité, tout ça, ça peut engendrer en fait cette addiction.
Ouais, en fait, c'est pas... Enfin, genre, il n'y a pas un gène, par exemple, qui ferait que dès la naissance, on va être addict ou pas, quoi. C'est pas... Enfin... C'est pas purement, c'est pas une prédisposition biologique ou je sais quoi. Enfin, en psycho, c'est vrai qu'on voit beaucoup que ça va être effectivement des questions d'environnement ou ce genre de choses. Quand on est dans les addictions avec substance, par exemple, ce qui va créer l'addiction, en fait, c'est que la substance elle-même est addictive. Et donc, bah, en fait, la molécule, elle va venir agir sur ton cerveau et ça va te créer des phénomènes de manque et tout ça. Et petit à petit, l'addiction va s'installer comme ça. Avec les addictions, par exemple, aux jeux vidéo, ça va être effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est des questions d'environnement, tu commences à te mettre dessus. Puis peut-être qu'effectivement, bah, je sais pas, il se passe un problème dans ta famille ou dans tes études et du coup, tu as besoin de fuir quelque chose et du coup, tu vas trouver cet échappatoire et petit à petit, t'y enfermer encore plus, etc. Dans le cas de l'addiction, il y a aussi quelque chose avec ces addictions-là, notamment les addictions aux jeux d'argent, les addictions aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, ça va pouvoir activer ce qui s'appelle le circuit de la récompense. Donc en fait, c'est un petit truc dans ton cerveau qui fait que c'est une molécule que ton cerveau va sécréter qui va te susciter du plaisir, etc. Et du coup, en fait, en jouant, bah, jouer, ça te donne du plaisir, en fait. Enfin, et du coup, tu vas commencer à vraiment te sentir bien avec ça. Et bah, effectivement, si à côté ça va mal, là, t'es dans un truc où vraiment tu te sens bien. Et c'est comme ça que petit à petit, l'addiction, elle va s'installer. Mais c'est pas, enfin, en tout cas, je pense, on l'a pas, ou alors on l'a pas prouvé jusqu'ici, mais c'est pas, c'est pas écrit à ta naissance, toi, tu seras addict, et toi, tu le seras pas.
Non, non.
Et heureusement d'ailleurs.
Oui, heureusement. Bah, du coup, si je peux rebondir là-dessus, en effet, pour l'instant, ce n'est pas un gène. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'environnement dedans, dans le sens où, je sais pas, ça peut être la personne qui a peu ou alors pas du tout d'écoute par rapport à sa famille, à ses amis, etc. Ça peut être une personne qui a une faible estime d'elle-même. Qui n'a pas forcément d'amis ou d'entourage, etc. Donc, en effet, par exemple, les jeux vidéo peuvent être un refuge dans lequel la personne va pouvoir être elle-même, va pouvoir trouver une communauté et va pouvoir finalement s'accomplir.
Ouais. Oui, pour compléter, en fait, surtout pour les jeux en ligne, pour surtout cette notion d'environnement, ce que je peux rajouter, c'est que les jeux, surtout les jeux en ligne, permettent une interaction en temps réel avec d'autres joueurs via Internet. Et du coup, ça vraiment ça. Le fait de rester à plus de temps, ça peut faire tomber la personne dans l'addiction sans se rendre compte. Donc, c'est cet environnement qui a beaucoup plus d'influence, c'est comme dans les addictions sans substance. On se rend compte quand on a une compagnie de fumeurs ou une compagnie de consommateurs pour les loisirs, tout ce qui est autour de l'alcool. Parfois, on tombe dans cette addiction parce qu'il y a eu des occasions multiples qui ont fait que voilà, on a consommé et puis après, petit à petit, ça s'installe en fait sans qu'on se rende compte. Et puis voilà, c'est se chercher du plaisir et se rechercher des échappatoires pour oublier certains soucis parfois qui peuvent aussi faire entraîner la personne dans l'addiction.
Donc une personne, un environnement et un produit ou un non-produit du coup. Mais comment dire, tout à l'heure vous disiez des gens qui jouent peut-être aussi parce que ça leur permet d'échapper à une réalité pas toujours confortable. Et il y a la question de qu'est-ce que je mets à la place si j'ai plus mon addiction qui m'occupe beaucoup de temps, dans ma journée. Par exemple, j'organise ma journée pour pouvoir être tranquille pour jouer, pour qu'on me fiche la paix, pour avoir tout ce dont j'ai besoin pour ne pas sortir et jouer. Du coup, on imagine bien que si l'emploi du temps est rempli par ça, qu'est-ce qu'on met à la place ? Donc, quelles propositions vous pouvez faire ? Donc, il y a les groupes de parole déjà pour échanger, être avec d'autres. C'est peut-être ça aussi, comment on arrive à recréer des liens quand on a perdu l'habitude d'être en face d'êtres humains, en fait, de corps, de vivant, de...
Ouais, ça c'est une bonne question et puis une bonne remarque parce que ça me fait penser, nous, à sur quoi on est confronté souvent et dans le concret. On voit par exemple les étudiants qui viennent d'autres départements ou même des étudiants qui viennent de l'étranger qui n'a plus en fait le lien familial habituel, qui se retrouvent dans une ville pour la première fois, dans une chambre pour prendre de l'autonomie brutalement comme ça, ils n'ont pas été préparés. Et puis qui se retrouvent avec le téléphone, c'est surtout le téléphone portable ou l'ordinateur, là où ils gardent le lien en fait avec la famille, avec, vous savez, actuellement avec tout ce qui est webcam, tout ce qui permet en fait de rester en relation avec la famille, avec les amis. Et du coup les étudiants tombent en fait, le fait d'avoir peur de en fait de cet éloignement, de le fait de dire voilà, j'ai besoin de garder les liens avec les amis, et ça favorise en fait la surconsommation. Et là, parfois, on voit des étudiants qui arrivent par exemple à 2h, 3h du matin, toujours connectés sur les réseaux sociaux pour garder en fait ce lien, pour être entourés par peur de rester isolés. Et puis parfois, ils tombent on les voit dans une situation d'échec scolaire, parce que quand ils sont dans une situation d'échec scolaire, ils viennent nous voir en disant « oui, je ne sais pas pourquoi en fait, avant j'étais bon élève, mais j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma région, mais là j'ai des difficultés ». Et puis ils sont angoissés, on voit beaucoup d'angoisse. Et quand on fait l'évaluation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec quelques outils, on se rend compte qu'en fait, c'est cette addiction à Internet qui a mis le pas en fait sur le reste de la vie de l'étudiante. Et puis, ce qu'on travaille, bien sûr, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous vous rendez compte de cette situation? Et puis, on travaille petit à petit à voir comment essayer de garder le lien avec la famille et à des moments précis, et puis pouvoir continuer sa vie scolaire, garder le moment pour les cours. Est-ce que si on arrive à la maison ou après les cours, on peut raccrocher, on peut se rendre disponible pour pouvoir réviser. Donc, en fait, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs pratiques qu'on peut mettre en place cas par cas en fonction du type d'addiction. Parce qu'en fait, la gestion d'une pathologie est liée au jeu d'argent, c'est pas la même solution qu'on va proposer à quelqu'un qui souffre en fait des problèmes d'addiction à Internet ou aux jeux vidéo. On va adapter en fonction du cas, de la situation de chaque personne.
Je pense que l'important aussi, ça va être effectivement de pouvoir recréer ce lien. Donc oui, les groupes de parole, par exemple, ça peut aider. Et puis oui, simplement réussir à encourager, enfin simplement, c'est pas simple du tout, mais réussir à encourager la personne à recréer des liens, parce que bah quand on est dans cette situation d'addiction, effectivement, on perd les contacts sociaux dans la vraie vie, on va dire. Donc ouais, ça va être important de créer des liens, parce qu'en plus, faut pas, enfin. Le piège qu'il va y avoir, ça va être de remplacer cette addiction par une autre. Par exemple, on cite très souvent le sport comme moyen de compenser une addiction. Par exemple, dans l'arrêt de la cigarette, le sport est souvent très conseillé. On dit, bah voilà, va faire du sport, etc. Sauf que, et c'est très bien, effectivement, ça peut effectivement donner une alternative. Mais il faut faire attention à ne pas remplacer par une addiction, parce que le sport peut devenir une addiction également, et ça peut avoir encore les mêmes conséquences sur la santé, etc. Et je pense que ouais, ce qui va jouer pas mal, ça va être l'environnement qu'on va réussir à recréer autour, recréer un environnement sain et sécurisant pour la personne, pour que bah elle retourne vers d'autres personnes. Si elle est en rupture familiale, bah recréer le lien avec la famille par exemple. Si elle a plus d'amis, bah l'accompagner pour que petit à petit elle se refasse un ami, deux amis, et puis peut-être du coup justement elle va plus être plus se sentir toute seule, et puis voir que bah oui, dans la vraie vie aussi tu peux avoir des personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, etc.
Alors oui, sur l'idée de ne pas transférer une addiction vers une autre sans résoudre le problème de fond, j'entends bien ça. Et je me demande s'il y a eu, à votre sens, s'il y a eu un effet Covid. En fait, est-ce que vous avez vu peut-être plus d'étudiants et étudiantes dans ces problématiques d'addiction aux jeux vidéo, donc on a mentionné aux réseaux sociaux aussi, du fait du confinement et du ou de la Covid?
Oui, je peux dire qu'en fait, on a quand même constaté que le confinement a augmenté des situations de mal-être, parce que déjà, il y avait l'angoisse de tout ce qui se passait, surtout qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer. Et puis, le fait d'être isolé dans sa chambre ou d'être confiné, et ça coupait en fait des liens classiques et des rencontres physiques qu'on avait avant. Et ce qui a fait que aussi, donc, on a augmenté la connexion, parce que avec le confinement, vous savez bien, c'est pas uniquement que pour les étudiants, mais c'était pour le reste de la vie. On a beaucoup utilisé l'internet pour continuer à travailler, pour continuer à échanger. Ce qui a fait que pour certaines personnes, effectivement, il y a une surconsommation d'Internet et ou mes usages d'Internet. Et puis, au lieu de, comme ça a été évoqué, au lieu de privilégier les activités associatives en commun, que ce soit des activités physiques ou d'autres sorties, c'était en fait tout se passait sur Internet. Du coup, on a vu quand même augmenter le nombre des étudiants en situation de mal-être par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis, bien sûr, pour le moment, on ne peut pas évaluer, on n'a pas des chiffres précis sur les addictions. Si le confinement a augmenté les addictions aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent, mais... Et ce que nous, on constate par rapport au nombre de consultations qu'on a au sein du service de santé universitaire, c'est que voilà, le mal-être quand même a augmenté. On voit beaucoup de demandes de prise en charge et du mal-être qui a vraiment beaucoup augmenté.
Ça, c'est une question que les chercheurs se posent énormément. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours justement sur les liens entre la Covid et puis les addictions. Et pas seulement les addictions à Internet, hein, même au niveau des addictions avec substances, il y a pas mal d'études là qui sont en cours. Donc effectivement, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour avoir vraiment des chiffres et des statistiques précises, etc. Pour vraiment avoir une bonne évaluation de ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça questionne, parce que comme tu l'as dit, on voit augmenter le nombre de consultations. Alors, est-ce que c'est des personnes qui se sentent dans un mal-être, mais c'est passager et ça va se régler, ou est-ce que vraiment ça va être des personnes qui vont tomber ou qui sont déjà tombées dans une addiction? Mais en tout cas, il y a clairement de quoi s'interroger, et je pense que d'ici peut-être un an ou deux ans, on va commencer à voir sortir vraiment des études terminées avec des stats, et on va vraiment commencer à se rendre compte de l'ampleur ou non du problème, quoi.
Et en plus de cela, c'est ce que tu viens d'évoquer. Moi, j'ai lu récemment une étude qui a été publiée sur la population d'Île-de-France, en fait, et le lien entre Covid et addiction à l'alcool. Et ça a été prouvé qu'effectivement, le confinement a augmenté les personnes en souffrance d'addiction à l'alcool, parce que ça a été le moment où il y a eu beaucoup de consommation par jour pour les personnes même qui consommaient occasionnellement, mais qui ont augmenté les consommations d'alcool, et puis parfois qui sont tombées en addiction, alors que s'il n'y avait pas eu peut-être ce problème de confinement, cette addiction n'allait pas venir.
Après, toute la question, ça va être aussi de savoir si c'est vraiment le confinement qui a créé cette addiction, ou s'il y avait déjà un problème avant, parce que c'est un petit peu ça aussi qui fait qu'on peut pas encore trop dire. Mais effectivement, oui, par rapport à l'alcool, on commence à avoir déjà des résultats bons. qui commence à nous dire que bon, il y a quand même vraiment un souci. Après, bah oui, effectivement, est-ce que la personne qui est tombée dans l'addiction aux jeux vidéo pendant le confinement, est-ce que déjà avant elle commençait à avoir un usage problématique ou non? C'est un peu toutes ces questions qu'il faut bien prendre en compte, et c'est pour ça que ça prend du temps, hein, d'évaluer vraiment l'impact de la Covid là-dessus, parce que bah peut-être qu'une personne qui est tombée dans l'addiction à Internet parce que elle était en confinement et qu'elle avait que ça, peut-être qu'en fait avant elle avait déjà un usage qui était problématique, mais on s'en rendait pas nécessairement compte. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah du coup un effet comme ça, une pandémie comme ça, bah ça peut avoir un effet amplificateur de situations qui sont déjà problématiques, quoi. C'est ça aussi qui va être intéressant à voir.
Alors, sur l'idée de tout à l'heure, vous évoquiez peut-être l'effet de dopamine là des réseaux sociaux et autres, et donc sur l'idée des jeux d'argent, je me questionne sur l'idée de la récompense aléatoire, parce que de temps en temps, très rarement, on gagne, et en fait la plupart du temps on ne gagne pas. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est orchestré par les organisateurs de jeux. En fait, le mécanisme est pensé en amont pour obtenir tel effet d'addiction, d'adhésion au jeu, de renforcement de l'addiction. Et en fait, je m'interroge sur la responsabilité des organisateurs. Est-ce que la loi dit quelque chose à ce sujet ?
Oui, bien sûr, il y a une loi qui prévoit, en fait, et surtout aux fournisseurs de ces jeux vidéo, de pouvoir quand même diffuser des messages de prévention, et aussi à un certain moment, quand on constate qu'il y a une exagération, et faire le signalement. Donc là, la loi prévoit en fait des dispositifs de limitation, effectivement, de contrôle, et quand on est dans une sorte de surconsommation, les fournisseurs de jeux, ils ont cette obligation légale de faire de la prévention. À limitant. C'est pour ça que j'ai dit en fait tout à l'heure, il y a une sorte d'auto-contrôle, d'auto-limitation, d'auto-exclusion. Tout ça, c'est des barrières qui sont prévues par la loi. Sauf que, bien sûr, les gens ont du mal à s'y faire parce que c'est compliqué.
Et puis en fait, par exemple, avec les jeux d'argent, effectivement... L'utilisateur peut s'auto-bannir d'un site de jeux d'argent. Le problème, c'est qu'il en existe tellement que, bah, en fait, ça va peut-être marcher un temps, et puis après, il va aller s'inscrire ailleurs, voire même sur des sites qui sont pas français et donc qui ne répondent pas à la législation française. Et alors là, on va commencer à avoir des soucis. Et après, effectivement, en termes de loi, comme tu le dis, il y a l'obligation de mettre des messages de prévention, etc. Mais c'est sûr qu'il y a encore... je pense qu'on est encore assez inefficace en termes de prévention. On a tous déjà vu à la télé ou dans la rue des publicités pour les paris en ligne. Alors que quand on sait ce que ça peut donner, bah on peut se dire ouais, c'est quand même assez problématique, quoi. La publicité pour la cigarette, c'est interdit par exemple. Donc pourquoi est-ce que la publicité pour les paris en ligne, ça ne le serait pas. Il y a des propositions de loi qui sont faites, hein, dans ce sens. Ça a déjà été évoqué. Enfin, c'est des choses qui peuvent dont on commence un petit peu à parler. Après, bah oui, comme tu l'as dit, hein, les concepteurs de jeux d'argent, c'est comme de jeux vidéo d'ailleurs. Il y a des gens, c'est leur métier de toute façon, ça va être de penser qu'est-ce qui va faire qu'on va garder l'utilisateur en ligne le plus longtemps. Et ils vont avoir étudié le fonctionnement du cerveau un peu comme on le fait en psycho ou autre. Sauf qu'eux, ils vont s'en servir pour faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible sur ton jeu. Alors que quand on étudie par exemple la psycho, on va plus s'en servir pour dire bon, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter tout ça. Donc c'est un petit peu paradoxal, hein, mais actuellement effectivement la situation c'est ça, et en même temps est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose contre ça, je sais pas. Enfin, c'est un peu heureusement on a, en fait on va être dans la prévention, quoi. Heureusement on a cette prévention qui est là, mais c'est un petit peu tout ce qu'on a pour le moment, quoi.
Bien, cette émission touche déjà malheureusement presque à sa fin. Alors peut-être avant de la terminer, vous voudriez, alors pour les étudiants Relais Santé, nous dire est-ce qu'il y a des événements prévus du côté des étudiants Relais Santé, et puis pour nos trois invités, peut-être avez-vous des ressources en ligne ou des livres ou autres à recommander à nos auditeurs.
Alors propre aux addictions sans substance, on n'a pas forcément d'action pour le moment. En fait, on vient de terminer une intervention sur le thème des applications de rencontres Et donc avec notamment le côté addiction. Après, sur les addictions sans substance, là, on n'a pas forcément d'intervention à venir, il me semble.
Non. Bah, là, prochainement, on va intervenir pour tenir des stands à cocktails sans alcool. Mais après, par rapport aux addictions sans substance, oui, en effet, il y avait sur les applications de rencontres, par exemple, comme Tinder ou même le phénomène du swipe aussi. Mais sinon, non, après, c'est que ouais, pour les cocktails sans alcool, ouais.
Ouais, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, pour l'instant, pour cette année, là, on n'a pas encore, en tout cas. Après, on verra bien.
Ouais,
Puisqu'on aura le temps de remonter quelque chose.
Oui,
on
ne
sait jamais. Après, en termes de ressources, Victor, ça va plus être toi, je pense.
Oui, c'est ça, en fait. En plus de ce qu'il vient de dire, en fait, en tant que service de santé universitaire, on travaille avec des groupes d'étudiants qui sont dans les métiers de santé, que ce soit dans les IFSI, que ce soit en formation en médecine. Vous savez, ça existe ce qu'on appelle les services sanitaires. Et là, actuellement, je travaille avec un groupe des étudiants en médecine qui prévoit une action ce mois-ci sur les addictions sans substance. Donc, on travaille sur les outils que le service de santé a créés avec les étudiants de santé des années précédentes pour aller sensibiliser d'autres étudiants. Donc, c'est une action qui va se faire, en fait, cette année. Donc, là, c'est une occasion aussi de parler aux autres étudiants qui ne sont pas seulement en médecine, mais qui ont envie, en fait, de travailler sur cette thématique, que nous disposons des outils d'animation sur la thématique des addictions sans substance. Donc, ils peuvent venir nous voir et puis on mettra des outils à leur disposition. Sinon, à ce qui concerne les ressources, je répète ce que j'ai parlé tout à l'heure. Je conseille beaucoup d'aller sur le site Joueur Info Service. C'est un lieu ressource privilégié pour avoir beaucoup d'informations. Mais si on a des difficultés à avancer en fait dans l'arrêt de l'addiction, on peut venir au SSU et puis nous on travaille en étroite collaboration avec le centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, donc l'OCSAPA 37 et puis le service de consultation jeunes consommateurs. Et puis, si on peut aller en fait sur le site de consultation jeunes consommateurs en France, il y en a plusieurs endroits. Et puis, les ressources, bien sûr, on en a aussi sur le site de la FRAPS. La FRAPS, c'est un organisme qu'on a aussi dans notre département qui met à disposition des outils en matière de promotion de la santé.
Voilà, eh bien, merci beaucoup à vous trois d'être venus dans cette méridienne. Voilà, donc on rappelle deux étudiantes relais santé, Ombeline Margot et Victor, donc qui est infirmier, voilà, en santé publique. Alors, on va se quitter en écoutant un peu de musique, chers auditeurs, chers invités. Et il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes. Donc, cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et en podcast sur notre site dès aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes.